Chronique Histoire avec Bernard Lescaze, spécialiste de l'histoire culturelle et politique genevoise.
Bonjour. On le sait, les diplomates, comme beaucoup d'autres professions, sont parfois enclins à l'erreur et à penser que leur vision des choses est la seule bonne. Mais parfois, on découvre que des dizaines d'années plus tard, voire quelques siècles après, la manière sans doute confondante avec laquelle ils appréhendent la réalité. Parfois, au contraire, il suffit d'une génération, même pas. Tel est le cas, notamment, des publications suisses, concernant aussi Genève, des documents diplomatiques suisses. Belle série qui commence en 1848 et qui, petit à petit, fait un choix parmi la correspondance diplomatique et la correspondance politique entre États reçue par la Suisse. C'est notamment grâce à ces documents diplomatiques suisses que l'on a pu mieux apprécier l'attitude de la Suisse et du canton de Genève pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, ou bien les tractations qui ont entraîné l'établissement du siège de la Société des Nations à Genève en 1920. Un élément intéressant vient d'être publié dans le dernier volume des documents diplomatiques suisses qui concerne les années 1980. Et il est lié en partie à notre actualité récente puisqu'il s'agit de l'attitude des diplomates suisses et notamment de notre ambassadeur à Addis Abeba de l'époque devant la guerre et la guérilla en Érythrée. Or, vous le savez, une partie des Érythréens se sont réfugiés en Suisse, mais se combattent entre eux parce que les uns sont partisans de l'actuel gouvernement, qui est le même depuis 30 ans, et les autres sont des opposants farouches. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de constater qu'évidemment, ceux qui sont partisans du gouvernement pourraient fort bien rentrer chez eux. Mais souvent, ils se sont installés en Europe ou en Suisse ou à Genève il y a plus de 30 ans, avant même que le dictateur actuel, qui est le même depuis l'indépendance de l'Érythrée en 1993, se soit installé au pouvoir. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir le manque de lucidité de certains diplomates suisses face à cet homme à l'instant où il entre dans la capitale, Asmara. Et on constate, pour notre ambassadeur en Éthiopie, que ce personnage, qui s'appelle Isaias, a l'air tout à fait pragmatique, présente bien. Il a la fin de la quarantaine, il s'exprime avec précision, probablement en anglais d'ailleurs, assez direct. Il n'est pas compliqué, il n'est pas présentieux. Et au fond, il semble efficace, parcimonieux et offre toutes les garanties d'une excellente administration. Même mieux, le rapport indique que le chef des rebelles a étudié la Constitution fédérale suisse. Comment pouvoir croire à une telle ânerie ? Et qu'il l'a distribuée à ses collaborateurs, qu'il s'intéresse particulièrement au système de milice et au principe de la collégialité. Mieux, il n'y a alors en Érythrée qu'une seule prison avec 300 détenus. Quels sont les résultats 30 ans plus tard ? Le dictateur s'avère un personnage qui contrôle tout, n'accepte de partager aucune parcelle de son pouvoir. Et le fameux système de milice, c'est le fameux National Service, c'est-à-dire une sorte de mobilisation sans durée déterminée, mais au contraire à durée indéterminée, de tous les jeunes hommes capables de servir, ce qui explique notamment la fuite des Érythréens en Suisse. On voit donc combien, parfois, l'appréciation de la réalité par certains diplomates, est totalement éloigné et un peu fantaisiste de ce qu'on voit plus tard. Il faut dire que le professeur Sacha Tsala, qui publie les documents diplomatiques suisses, a fait là une œuvre utile puisqu'il choisit les documents avec des collaborateurs et que ceux-ci recèlent peut-être dans les archives fédérales d'autres pépites. En tout cas, il faut savoir gré à cette collection scientifique de parfois montrer un visage un peu plus sombre de la diplomatie suisse.